l'OTAN.
Alors, au dernier grand rassemblement, donc au G7, Trump est parti assez rapidement. On espère que cette fois-ci, il va y rester un peu plus longtemps.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour un épisode de Zoom Zoom Zen intégralement dédié au fun aujourd'hui, puisqu'on va zoomer sur l'OTAN. Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef qui a couvert en tant que stagiaire la signature du traité de l'Atlantique Nord à Washington le 4 avril 1949, le jour où le monde libre a dit non à ces pourritures communistes, écrira-t-il dans ses mémoires autodédités Eisenhower, Churchill et moi, très ému cet après-midi à l'heure où l'OTAN est malmenée à la fois par les gesticulations hiératiques de Donald Trump et par la menace russe, ces satanés bouffeurs de pirochki, je les déteste encore plus que quand ils étaient communistes, fulminait-il tout à l'heure en conférence de rédaction. Mais au-delà de ces considérations géopolitiques de haute volée, n'est-il pas grand temps de zoomer sur l'OTAN, sa création, ses motivations, son fonctionnement, pour mieux comprendre cette organisation dont on entend toujours parler, mais qu'au fond, à part Cyril, on connaît peu. Alors, à quoi sert l'OTAN? Une alliance politico-militaire créée pour protéger l'Europe de la menace soviétique peut-elle encore marcher dans un monde désormais multipolaire et imprévisible où demain les États-Unis peuvent racheter le Groenland et dès aujourd'hui bombarder l'Iran sans consulter le Congrès? Un peu comme Cyril, lorsqu'au resto, il commande d'emblée des côtes de bœuf pour tout le monde, alors que pourtant, il y a trois véganes dans l'équipe. Il y avait trois véganes dans l'équipe. Bref, le caractère lunatique de Trump peut-il porter un coup fatal à l'OTAN? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Maud Kessard.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences et directrice du domaine Europe-Espace Transatlantique Russie à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, où je crois on sait rire désormais.
Absolument.
Parce que beaucoup de vos collègues viennent dans cette émission.
Et rient
à gorge déployée. Hier s'est ouvert le sommet de l'OTAN à La Haye, aux Pays-Bas, sommet sous tension avec le retour de Donald Trump et la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine. Vous allez nous expliquer tout ça, Maud. Juste le temps de vous présenter mes fidèles collègues, à commencer par celui qu'il a fallu payer aujourd'hui pour qu'il renonce à la blague musicale qu'il avait prévue.
Avec l'OTAN, avec l'OTAN va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qui riait comme une truie. L'autre qu'on devinait, au détour d'un petit bar, entre les shots, entre les lignes, et sous le bar. D'une Manon maquillée qui s'en va faire sa nuit.
Oui, avec l'OTAN, tout s'évanouit.
Avec l'OTAN.
Avec l'OTAN, tout s'évanouit, sauf le talent lyrique de Quentin, lui. Mais c'était un peu bas pour vous, mais c'était quand
c'est
même...
C'est pas ma tona.
C'est pas votre
ouais,
c'est bah pas oui. tona, effectivement,
parole,
mais vous avez bien assuré quand même.
Qu'est-ce que c'est votre tona à vous?
Ah, j'ai pas, c'est pas... En tout cas, c'était oui. pas le...
C'était pas celle-ci, en tout cas.
Celle-ci.
Il est pas capable de te le dire, mais c'était pas celle-ci.
Je suis plutôt en clé de sol.
Alors, clé de sol, ça veut vraiment rien dire.
Rien.
Ce micro à travers lequel vous réinventez les plus grands chefs-d'œuvre de notre répertoire, il vous arrive aussi de le tendre aux passants dans la rue pour les faire réagir à notre thème du jour. Alors, est-ce que l'OTAN, ça les inspire?
J'ai emmené notre stagiaire de cette semaine, enfin, mon stagiaire, enregistré dans la rue. Il s'appelle Paul, il porte des baguilles, il a un casque sur les oreilles, des bouclettes dans les cheveux. Il a adoré venir discuter de l'OTAN avec les gens dans la rue qui ne se souviennent plus trop de ce que ça veut dire l'OTAN.
Ah, heureusement qu'on est là. À vos côtés, Maud, elle, je vous rassure, ne chantera pas. Problème de timidité, nous dira-t-elle, surtout problème de justesse, nous dira Quentin. Manon Mariani, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Oh le bonjour mauvais.
Bonjour. Arrêtez avec la justesse.
Manon, comme chaque après-midi, vous nous brosserez le portrait de l'autre personne à suivre.
Oui, l'ex-présidente géorgienne aujourd'hui qui a perdu les élections mais qui ne veut pas démissionner, pro-Europe, pro-OTAN, elle s'oppose fermement au gouvernement russe.
Vers 16h30, comme vous nous réécoutez régulièrement les 572 Zoom Zoom Tests en podcast, vous savez déjà qu'en 1275, la guerre de Belgique fut causée par une vache. Mais saviez-vous que la guerre du Vietnam fut causée par Cyril Lacarrière? Ou presque, suite à une bourde en tout cas, mais laquelle? Réponse dans le quiz
réponse
tout à l'heure.
En longueur.
Oui, le quiz sera particulièrement long. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir sur ces bourdes, qui ont des bourdes diplomatiques qui ont déclenché des guerres. Mais juste avant 17h, nous serons rejoints par Tania Dutel. Après 17h, on zoomera sur François Bayrou. Est-ce qu'il est dans l'impasse? Pourquoi son conclave a-t-il été un échec? Thomas Soulier, journaliste au Parisien, sera avec nous pour nous expliquer. Mais d'abord, Maud Kessard, on craignait une absence de Donald Trump à ce sommet de l'OTAN à La Haye. Finalement, il est venu et il a trouvé ça, mais alors, formidable. Est-ce que vous partagez cette analyse?
Alors, je ne sais pas si Trump a trouvé le sommet de l'OTAN formidable ou s'il a trouvé formidable le fait qu'il bénéficie d'une arène internationale pour dire à quel point lui était formidable
et ça.
À quel point lui avait été efficace en menant une opération militaire réussie, car finalement, ce qui est à l'esprit de Trump aujourd'hui, c'est de voler la vedette à Netanyahou et pouvoir une fois de plus expliquer aux Européens que c'est lui l'homme fort et que lui, il s'est mené des opérations militaires et que c'est lui qui a le leadership. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a maintenu sa venue, non pas pour en fait répondre à l'agenda qui était fixé, qui était déjà, on va dire, un petit peu prévendu avant l'arrivée de Trump, mais plutôt pour pouvoir réaffirmer finalement la puissance américaine et surtout sa victoire. Exactement.
L'OTAN, c'est précisément là-dessus que Cyril s'est désolidarisé dès 1960 de son idole de jeunesse, le général de Gaulle. Quand ce dernier a commencé à critiquer le traité de l'Atlantique Nord, patriote dans l'âme mais atlantiste de cœur, Cyril avait alors choisi d'interpeller le général en jouant l'hymne américain à la flûte à bec devant la porte principale de l'Élysée. « Circulez, monsieur », avait dit l'agent de sécurité. Le général, lui, n'avait rien dit du tout, mais il avait dû être certainement dévasté. Cyril, racontez-nous l'OTAN, d'où ça sort ?
4 avril 1949, Washington DC. 4 années sont passées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le début d'une autre guerre, une guerre froide. 12 pays décident de s'unir, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Danemark, Norvège, Islande et Portugal. Pour les pays européens, il s'agit de s'assurer de la protection des États-Unis contre une éventuelle agression soviétique. C'est la naissance de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Derrière cette union, un principe fondateur et crucial, c'est l'article 5. Si un pays membre est attaqué, ce sont tous les pays qui sont attaqués. Une sorte de ressucé du tout du fameux « tous pour un pour tous » lancé par D'Artagnan dans les Trois Mousquetaires.
Monsieur a des références.
Oui. 6 ans plus tard, la République fédérale d'Allemagne adhère à son tour à l'OTAN. Ça ne plaît pas à l'URSS, qui crée le pacte de Varsovie avec la plupart des pays qui composent le bloc communiste. En gros, l'Europe de l'Est, et au milieu, le rideau de fer.
Deux blocs qui vont donc s'affronter, mais sans se faire la guerre.
C'est exactement ça. Les crises vont se succéder pourtant. 1961, la construction du mur de Berlin. Un an plus tard, cette fois à Cuba, avec la crise des missiles, probablement l'acmé de la guerre froide. Et puis à la fin des années 70, avec le déploiement en Europe des missiles soviétiques de moyenne portée. Entre-temps, la France a fait sa crise d'ado. En 1966, le général de Gaulle décide de quitter le commandement militaire de l'organisation pour plusieurs raisons. Une volonté d'indépendance stratégique et militaire vis-à-vis des États-Unis et la souveraineté nucléaire française. Le président Sarkozy y fera revenir la France en mars 2009. Alors, à quoi ça sert encore l'OTAN ? Qui ça protège ? Quand est-ce que ça nous protège ? Faut-il abolir ces organisations ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Maud Kessa, en effet, la question se pose quand même en ce début d'émission. Avec la chute de l'Union soviétique, à quoi sert encore l'OTAN aujourd'hui ?
Alors, l'Union soviétique, rappelez-vous, a chuté quand même en 89, donc ça fait un certain temps, et l'OTAN a survécu. Alors effectivement, il y a plusieurs moments dans l'histoire de cette alliance politique et militaire que vous rappeliez. C'est vraiment important aujourd'hui de souligner que l'OTAN, c'est pas qu'une alliance militaire, donc défensive, c'est aussi une alliance qui est basée sur des principes qui sont partagés par l'ensemble des États membres, et ces principes, c'est aussi le maintien de valeurs démocratiques. Et je pense que le moment que l'on vit, il est important parce que justement, on pense qu'il y a des discussions autour de ce que sont ces valeurs démocratique, et c'est sans doute peut-être la leçon de cette année 2025, quand on a vu qu'il y avait peut-être un schisme majeur au sein de l'OTAN, après le discours de J.D. Vance, donc de février 25. Mais si on regarde un petit peu sur le temps long, on voit que les ruptures, elles sont pas que liées à la chute du bloc soviétique en 89, elles sont liées à d'autres moments de l'histoire qui sont importants. Plus proche de nous, on a 2001, et les attentats contre le World Trade Center, qui montrent en fait que l'OTAN sert aussi à lutter contre, non pas d'autres États, mais des acteurs qu'on appelle non étatiques, en clair des acteurs terroristes. Et pour ça, la coopération entre les alliés de l'OTAN est extrêmement reconnue et efficace. Elle est tellement reconnue et efficace que même Donald Trump s'en est rendu compte, puisque après avoir fait des allers-retours dès son premier mandat sur le fait que l'OTAN était obsolète, inutile, il avait reconnu finalement que l'OTAN était quand même très utile en matière de lutte contre le terrorisme, et il reconnaissait en fait l'utilité de l'alliance en ce sens. Et puis, il y a aussi un autre moment qui est assez important et fondateur et qui nous touche plus, nous, directement les Européens, c'est 2014. On est tous familiers aujourd'hui de ce moment charnière de notre histoire européenne, puisque c'est la guerre de Crimée et qui porte en germe, évidemment, la guerre d'Ukraine que nous connaissons depuis donc février 2022.
C'est à partir de là que l'OTAN redevient indispensable.
Absolument. Et donc, alors, c'est pas que ça n'était pas indispensable avant, c'était que l'Alliance, en fait, avait finalement connu des évolutions dans les objectifs qu'elle pouvait porter, et c'est-à-dire où sont les objectifs de guerre, contre quoi on lutte et qui est l'ennemi. Donc ce qui est clair, c'est que pour nous les Européens, dans les priorités des menaces, la Russie en est une majeure. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que peut-être au sein de l'Alliance, tout le monde ne considère pas la menace comme une la menace russe comme une priorité.
On va voir qui vous nous donnerez des noms. Zoom, zoom, zen.
Mathieu Noël sur France Inter.
Si les ricains n'étaient pas là, chantait le poète en 1970. Zoom aujourd'hui sur l'OTAN avec vous, Maud Kessar, directrice du domaine Europe, Espace, Transatlantique, Russie à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Le sommet de l'OTAN s'est ouvert à La Haye, aux Pays-Bas. Il y a un point sur lequel les États membres se sont entendus, c'est de consacrer 5% de leur PIB aux dépenses militaires. C'était une demande de Donald Trump. Elle vient d'où cette demande? Pourquoi c'était important pour lui?
Alors c'était important parce que c'est pas que Donald Trump qui demande depuis longtemps dans les présidents américains successifs que les Européens participent plus à leur effort de défense.
Ça s'entend.
Ça peut s'entendre, d'autant que cette demande, en plus, et ça c'est bien de, quand même de le rappeler, ne vient pas que de présidents qui seraient anti-européens ou républicains.
Oui,
en fait,
ça remonte
dès les années 70, en fait, certains grands leaders démocrates demandaient aux Européens de ne plus se reposer sur les dividendes de la paix et d'investir davantage dans leur défense. Bon, il faut dire que c'est revenu de manière très marquée à l'esprit de Trump, qui lui a une animosité non masquée pour les Européens, et c'est aussi le cas des membres de son administration qui pensent en fait que, comme le président Trump, que les Européens en fait sont des profiteurs et donc profitent des garanties de sécurité offertes par les États-Unis. Donc aujourd'hui, 5% c'est un chiffre assez symbolique. On a bien compris qu'il faut quand même rappeler la réalité des prix, c'est qu'aujourd'hui, Mark Rutte et les Européens promettent ces 5%, mais ce n'est pas pour demain matin.
Là, on est à combien aujourd'hui ?
Là, on sera à 2032, on n'est pas tout... Le plancher aujourd'hui, c'est
2%. 2%.
Voilà, donc ça demande un effort considérable et qui nécessite plusieurs années avant d'atteindre cet objectif. Et donc, les Américains disent 2032, les Européens disent 2035.
Et Bayrou dit 2600, parce que là, franchement, avec
et
le budget actuel,
là,
c'est compliqué.
Je pense que Trump où notre Premier ministre ne seront plus aux affaires. Donc on comprend aussi la relativité possible de ces promesses qui sont engageantes pour Trump et qui sont une forme de victoire rhétorique, mais qui sont dans les faits, ne vont pas s'accompagner d'un bouleversement immédiat. Ça va être progressif.
J'ai vu que l'Islande n'avait aucun armement. Comment elle peut atteindre cet objectif de 5% si elle, pour l'instant, elle n'a rien?
Oui, mais c'est pas parce que... Alors, vous avez raison, tous les pays européens ne sont pas équipés de la même manière en termes de capacité militaire. Les États qui sont les plus équipés sont curieusement, et de manière assez intéressante, ceux qui sont des États plus riches et qui ont aussi une perception de la menace plus vive, puisque c'est surtout les pays qui ont une frontière avec la Russie qui sont plus équipés. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de capacité militaire qu'on ne contribue pas nécessairement à certaines missions de l'OTAN. Et ça, il faut le rappeler. Et c'est tout ce débat qu'on a parfois au sein des alliés entre ceux qui apportent de la capacité militaire, du quantitatif, du lourd, de la masse, et ceux qui pourraient apporter aussi une approche plus qualitative.
Et qu'est-ce qu'ils apportent, l'Islande ?
Alors, des fois, quand on apporte porte pas des tanks et des missiles, on peut aussi apporter du renseignement, on peut apporter de l'aide humanitaire, on peut contribuer d'une autre manière. Alors c'est vrai que ça peut faire débat, et ça fait débat depuis des années entre les alliés de part et d'autre de l'Atlantique pour savoir ce qui est l'investissement en qualité ou en quantité. Et vous comprenez où est l'argument de la qualité de notre côté de l'Atlantique.
Pour qu'on visualise un peu mieux les choses, c'est quoi l'OTAN ? Il y a des troupes propres à l'OTAN, c'est des soldats de l'OTAN avec un commandement.
On a un commandement militaire intégré, et donc il y a un commandement militaire, comme il y a une instance décisionnelle qui prend toutes ces décisions politiques par consensus. Donc c'est important de le rappeler, parce que ce qui veut dire que quand vous n'êtes pas d'accord, ça peut prendre, comme on en est à 32 États maintenant, un certain temps.
Ils ne peuvent pas réagir très vite, quoi.
C'est ça, c'est la difficulté.
Est-ce que cette demande aussi, c'est un moyen pour Donald Trump de préparer le désengagement des États-Unis en Europe ?
Alors, beaucoup d'auteurs ou de commentateurs vont vous dire que c'est pour... Bien sûr, ça en fait partie dans son esprit. C'est que l'idée, c'est que les Européens puissent prendre leur propre sécurité en main. Et le mantra américain, au-delà de Donald Trump, c'est « à problème de sécurité européen, solution européenne ». Ils disent la même chose pour le continent africain, sauf que bon, là, on n'est pas dans les mêmes investissements de défense. Pour autant, ça ne veut pas dire que les États-Unis vont partir demain matin avec toutes leurs troupes qu'ils rebasculeraient en Indo-Pacifique, par exemple, puisque c'est l'objectif, en fait, de la stratégie américaine.
Il est la preuve que le succès pervertit les esprits et change les hommes. En 2022, quand je l'ai rencontré, il était d'une humilité et d'une gentillesse qui confinait même parfois à la candeur. 3 ans plus tard, c'est un monstre qui interviewe les passants, n'hésitant plus à se payer leur tête alors même qu'ils font l'effort de témoigner à son micro.
J'écouterai sous la pluie, là, sans faune des éclairs.
Bon, elle est très sympa Armel, mais quelques concerts en plus de Zao pour trouver la justesse.
Quentin, c'est un miracle, les gens acceptent encore de s'arrêter à votre micro, je vais vous dire. C'est sans doute pour ça
je t'acquise.
Que vous avez embarqué avec vous un jeune allié aujourd'hui.
Oui, j'ai un stagiaire cette semaine, je vous présente Paul. Bonjour Paul, qui a eu l'immense chance de tomber sur l'OTAN. Hein, un tournage où les gens se sont littéralement jetés sur mon micro, tant ils voulaient commenter eux aussi ce sommet.
Et puis on a galéré, les gens sont pas forcément polis en plus.
Ils disent pas tout. Bonjour, mais ça Paul, on n'est pas obligé de tout dire. J'explique à Paul que moi j'observe les gens. Tiens, ce monsieur, la soixantaine, chemise bleu ciel, pantalon blanc, retraité, il sera notre premier intervenant sur...
L'OTAN.
C'est quoi ?
L'organisation transatlantique... Tralala.
Mais tralala, ploum ploum. Nous discutons du contexte actuel des budgets de la défense de tous les pays.
Bon, tous ces milliards qui sont dépensés, moi ça me sidère un petit peu. J'ai appris que pendant le raid américain qu'il y a eu sur l'Iran il y a quelques jours, les avions qui me faisaient penser à des Raymantas, là, ça valait 2 milliards de dollars l'unité. Moi je suis sidéré par ces sommes colossales, monstrueuses, investies et dépensées au quotidien pour des résultats qui ne paraissent pas exceptionnels.
Alors justement, je demande à Frédéric, est-ce que ce serait pas le moment que la France investisse pour se mettre au niveau ?
Non, je ne suis pas persuadé que des milliards supplémentaires vont changer la face du monde.
À l'angle de la rue, surgit de nulle part ce monsieur barbu qui traîne au bout d'une ficelle 3 semi-remorques miniatures en plastique, desquelles dépassent des petits drapeaux américains qui volent au vent.
Et puis, bah, on aurait dit Forrest Gump à la fin de sa course.
Ouais, alors Paul, on décrit les gens, mais pas forcément aussi précisément. Bonjour.
Salut ma poule.
Quel est votre prénom ?
H.M. Murdoch du Looping. J'ai servi dans les explosifs à l'armée. Ancien démineur des forces spéciales. L'OTAN. Bah, l'OTAN, c'est le... c'est le truc de l'armée, tout ça. L'ONU, tout ça.
Trump.
Ah bah, ça trompe énormément. Hein. Trump et moi, on est copains comme cochons.
Passez une bonne journée.
Salut, ma poule.
J'ai trouvé un peu fou, oui, pour ne pas te mentir.
C'est simplement sa réalité qu'on respecte.
Oui, respectons-la.
C'est ce qu'on appelle dans un jargon une mauvaise pioche. Heureusement, on tombe sur ces deux jeunes femmes. Bonjour.
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 Quels sont vos prénoms, les filles ?
Geneba, Rachida. On est en stage.
Vous aussi ?
Oui.
Je présente Paul.
Bonjour, Paul. Pareil.
Stage de quoi ?
En agence immobilière.
Donc vous avez assisté à des ventes d'appartements sur place ?
Oui.
Vous êtes un peu des porte-bonheur ?
Oui.
Voilà Paul, c'est ça des vrais stagiaires. Ah oui, tu vois Paul, un stagiaire ça peut aussi porter chance.
Bah regarde, là je porte chance. Pour une fois, il y a des jeunes dans ton micro-trottoir. Alors,
merci Paul.
Allez.
Alors les filles, c'est quoi ?
L'OTAN. Un pays ? C'est un pays. Un pays du Moyen-Orient, non ?
L'OTAN ?
Oui. J'ai déjà entendu parler, mais je sais pas c'est quoi. Organisation du traité d'Atlantique, ok. Ok, à côté de la plaque.
Eh oui, j'étais assez surpris en général de la méconnaissance de notre mot du jour, qui revient pourtant souvent dans l'actualité depuis plusieurs mois, et notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Mauvaise pioche encore, mais c'est ici que l'on rencontre Charlotte, modèle, mannequin, qui vit en Suisse. Elle me parle des conflits actuels dans le monde.
L'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est ça ?
Vous êtes la première.
C'est vrai ? Non, je suis quand même pas la première.
Aujourd'hui, si.
Ok, bah c'est triste.
Vous avez raison, vous avez grandi en tant que Suisse, donc du coup, vous n'avez pas la même vue sur le conflit.
Ouais.
Parlez-moi de ça, tiens.
La neutralité, c'est bien, mais là, ce genre de choses, on ne peut pas juste dire qu'on est neutre et qu'on a juste des opinions différentes et rien faire. C'est juste des personnes qui se font tuer alors qu'elles n'ont rien demandé à personne, des enfants, des ouais, c'est juste de la lâcheté dans ce cas-là pour moi d'être neutre.
Ce jeune homme qui chope la conversation à la volée me parle du sommet et de cette réunion de l'OTAN aux Pays-Bas.
Au dernier grand rassemblement, donc au G7, Trump est parti assez rapidement. On espère que cette fois-ci il va y rester un peu plus longtemps. qu'ils puissent écouter en tout cas les positions de tout le monde. Concernant les 5% d'investissement du PIB par pays, je trouve pas ça forcément mauvais, compte tenu du contexte aujourd'hui. À 20 ans, il y avait un autre contexte, c'était le Covid. À 24 ans, une guerre. J'espère qu'à 30 ans, on n'aura pas une guerre mondiale, mais non, c'est vrai que je m'y attendais pas, non.
Eh oui, en pleine réflexion sur l'état du monde, on s'assoit sur un banc avec Paul, avec Eric, qui a 83 ans.
D'abord, vous et moi, qu'est-ce qu'on fait ? On peut à l'arrière voter de temps en temps, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Ce sont nos dirigeants qui doivent prendre certaines décisions. Et nous, on n'a plus qu'à croiser les doigts, prier le bon Dieu, pour qu'il n'y ait pas trop de conneries qui soient faites par ces gens-là.
Je termine par une petite chanson ou pas ?
Ah bah allez-y, chantez.
Avec l'OTAN.
C'est reparti.
Avec l'OTAN va, tout s'en va.
Non, avec l'OTAN, si l'OTAN s'en va, tout s'en va.
C'est comme ça qu'avec Paul, mon cher stagiaire, qui commençait sérieusement à avoir faim et qui semblait plus intéressé par l'infâme coca-chérie de la machine à café que par une séance de montage avec moi, que nous avons clôturé avec fière allure un micro-trottoir.
Complètement à la rue, bien sûr. Oh.
Paul, il faut nous dire, est-ce qu'il a demandé le 06 de Charlotte, là, la mannequin suisse ?
Ça va pas ?
Oui.
J'en étais sûr, je le savais.
C'est une
blague.
Merci beaucoup, Paul et Quentin. Maud Kessa, pourquoi on ne connaît pas davantage l'OTAN et son rôle ? Vous avez été un peu choqué par les réactions des gens qui ne savaient même pas ce qu'était l'OTAN, en fait.
Alors, ça peut s'expliquer déjà, peut-être qu'il y en a qui ont oublié. Après, il y a les cursus aussi, vous avez des enfants, ce qu'on apprend en
histoire. Ouais.
Non, mais c'était quand même au programme.
Oui, normalement,
ceci dit,
ouais.
On a une vision moins chronologique aussi des événements. On aborde plus l'histoire par dossier. Et peut-être que c'est une bonne question et que votre émission met au jour le fait qu'il faut peut-être être plus explicite site et pédagogique sur les questions qui touchent donc à la défense et donc à la question de la mobilisation de la jeunesse. Et c'est peut-être une question qu'on devrait se poser de manière assez rapide, parce que si ces objets nous occupent, ça veut dire qu'ils occuperont d'abord nos enfants, nos jeunes, et c'est toujours important de comprendre pourquoi on s'engage et pourquoi on se bat et contre qui.
Et justement, le jeune homme que j'ai rencontré qui se prépare de plus en plus à la guerre, il a 24 ans, il nous dit à 20 ans j'ai eu le Covid, là il y a une guerre qui se prépare, à 30 ans j'espère pas une guerre mondiale. Est-ce que la jeunesse elle est prête à ce qu'on mette de l'argent, à ce qu'on investisse de l'argent, comme souhaité par Trump et les 5% du PIB ?
Alors sans doute qu'on peut investir dans la défense sous différentes formes, c'est pas forcément que du capacitaire, ça peut être de la formation, et le fait justement de former les jeunes, c'est aussi pouvoir les armer, préparer leur avenir, leur promettre aussi que la France ait une vraie capacité à se défendre, ouais, en étant d'abord bien informée, bien formée.
Et justement, on parle de la France. Ouais. Emmanuel Macron avait dit en 2019, il avait parlé d'une mort cérébrale de l'OTAN. Pourquoi il avait fait ce constat ?
Alors, sans doute, ce que Donald Trump a réussi à réveiller, parce qu'on a aussi parlé de wake-up call qui était absolument nécessaire. Après, ça a été la blague, c'était le wake-up snooze, parce que c'est le wake-up où il a fallu le faire plusieurs fois. Pourquoi ? Pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir que les Européens se seraient trop reposés sur l'idée qu'ils vivaient dans un continent en paix et que la guerre n'était plus à leur porte, et donc ils n'étaient pas assez préparés à prendre leur propre sécurité ou défense en main. Et donc, d'une certaine manière, une mort cérébrale, quand on n'est pas capable de réfléchir à plusieurs de ce côté de l'Atlantique et en étant capable de définir assez bien des menaces qui peuvent être imminentes, ben on peut se faire surprendre. Et l'idée, c'est que là, on ne peut plus se faire surprendre parce qu'on est en guerre depuis 2022.
Charlotte, qui est suisse et à qui je n'ai pas demandé son numéro, parce que je ne demande pas le numéro aux gens dans la rue, elle dit qu'elle est neutre, qu'être neutre aujourd'hui, donc elle parle de la Suisse, être neutre aujourd'hui, c'est aussi être lâche. Qu'en pensez-vous, cette phrase-là ?
C'est intéressant. Je pense que on a plusieurs encore pays neutres proches de nous. Mais être neutre, ça ne veut pas forcément dire ne pas s'équiper en matériel militaire.
La
Suisse a beaucoup de matériel militaire. Après,
on ne sait pas s'en servir. C'est ça que vous allez dire ?
Non, c'est pas ça. C'est que peut-être que les contingents sont un petit peu moins élevés que dans d'autres États, et qu'effectivement, c'est pas parce que on a aujourd'hui, on est dans dans un monde où on est tous très interdépendants les uns des autres. C'est ce qui nous lie aux États-Unis pour notre propre défense. Et c'est ça la difficulté de l'OTAN aujourd'hui, c'est de se dire que si on veut prendre notre propre sécurité en main, ça veut dire qu'il faut créer les infrastructures pour, pas que de la capacité militaire. Vous voyez, je reviens à votre question de tout à l'heure sur la Finlande. Être bon aussi dans le domaine civil pour soutenir l'effort de guerre et de défense est important. France Inter.
Zoom Zoom Zen. Je vais profiter de cette émission sur l'OTAN pour rétablir une vérité historique passée complètement sous les radars de la cellule d'investigation de Radio France. Nous sommes à Washington en 2003. Séjour de perme pour l'agent La Carrière, bien mérité après une semaine remplie à faire l'inventaire du service fourniture et papeterie du FBI. Après son jogging matinal, 100 mètres pour rallier le stand des hot dogs, il se pose en terrasse pour un rafraîchissement bien mérité. 4 heures et 17 pintes plus tard, il est interpellé en train de tenir des propos incompréhensibles devant le mémorial des anciens combattants du Vietnam.
La screen, actors, guild, American. Fédération.
N'ayant pas réussi à faire comprendre aux agents de sécurité qu'il était de la maison, il faut dire que « I'm from the house » n'a pas la même signification en anglais, Cyril finira en cellule de dégrisement, non sans avoir au préalable laissé un échantillon d'urine d'un litre 5 pour les analyses toxicologiques d'usage. Et c'est là que l'histoire, les amis, bascule. Au lieu d'être envoyé au docteur Pauline Cowell, les échantillons sont envoyés à Colin Powell, secrétaire d'État de George Bush qui, au vu des résultats, est persuadé de détenir la preuve que l'Irak est en train de fabriquer l'arme chimique la plus dangereuse au monde. Le résultat, on le connaît, discours à l'ONU, invasion de l'Irak, tout ça à cause d'un moment d'égarement de notre rédacteur en chef alors au FBI. Voici donc un quiz en forme de florilège des bourdes diplomatiques qui ont plus ou moins influencé l'histoire. Et on démarre en 2009, nous sommes à Trinidad et Tobago. Que oui, j'illustre par la musique de la Lambada, parce que comme dirait Cyril, on s'en fout, vendredi, c'est les vacances. À Trinidad et Tobago, on s'ouvre donc le sommet des Amériques, un sommet qui va être marqué par un geste à l'origine d'un moment extrêmement gênant, un peu comme la fois où Cyril terminait une phrase par le mot chibre au moment où l'invité Mona Chamas entrait dans le studio. Eh bien, ce moment au sommet des Amériques était presque aussi gênant. Un malaise survenu entre Barack Obama et Hugo Chavez, le regretté président de la République bolivarienne du Venezuela, dont notre réalisateur Ghislain Fontana a accroché le portrait au-dessus des toilettes sèches de sa tiny house. D'après vous, quel geste a provoqué ce malaise? Chavez s'est mouché avec un mouchoir aux couleurs du drapeau américain. Il a offert à Obama un livre anticapitaliste et anti-américain où il a enlevé ses chaussures pour honorer les ancêtres africains de Barack Obama.
C'est
un... B.
Non, c'est abusé. Non,
vous savez, c'est vrai.
Tout
est possible avec Chavez. Néanmoins, non, vous dites, vous dites quoi, Quentin?
Moi, je dis B.
Réponse B, c'est une bonne réponse de Quentin, lui, effectivement. Quoi de mieux pour réchauffer l'atmosphère qu'un exemplaire des veines ouvertes de l'Amérique latine de l'Uruguayen Eduardo Galin, dont je vous cite quelques passages. Très USA-friendly, selon la conception géopolitique de l'impérialisme, l'Amérique centrale n'est qu'un appendice naturel des États-Unis. L'Amérique latine fournit la salive en plus du repas et les États-Unis se contentent de tendre la bouche. C'est un peu comme si Manon offrait à Courade les amitiés toxiques, comment s'en préserver, comment y mettre fin. Pour la prochaine question, vous vous souvenez sûrement du Watergate, du Penelope Gate, mais est-ce que vous vous souvenez du Sofa Gate? Ce fameux incident où Bill Clinton a vomi sur le canapé de Boris Yeltsin? Donald Trump a pris la place préférée de la reine Elisabeth dans la salle, où tout le monde avait le droit de s'asseoir, sauf la bonne femme.
B.
Ah, mais B. C'est quoi la C?
Tout la le monde avait le droit de s'asseoir dans la pièce, sauf la femme présente.
B, moi je me souviens de B, j'ai lu ça.
Ah, vous l'avez lu ça? Vous l'avez lu certainement, notamment dans le monde diplomatique.
J'irai C.
C'est la bonne réponse, Manon. Effectivement, le manspreading à la sauce turque. Bienvenue chez Recep Tayyip Erdogan, qui en 2021 avait visiblement pas fini d'aménager son modeste 1000 pièces, dont on a déjà parlé ici. Lors d'une visite en Turquie de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du président du Conseil européen Charles Michel, il n'y avait que deux chaises dans la salle de réunion. Les deux gars ont pris les chaises en or et Ursula a fait banquette sur le canapé qui traînait à côté. Une humiliation largement commentée sur les réseaux à l'époque. Scandale patriarcal, diront l'essentiel des internautes. Pas de quoi en faire un frometon, un canapé, c'est quand même plus confortable pour tricoter, dira Cyril. Oh. Mais le temps file et vous avez besoin de vous dégourdir un peu. Alors c'est le moment de jouer notre célèbre jeu Chirac ou Macron. Je vous lis des déclarations un peu border.
Il y a les deux aussi.
Il va falloir deviner qui en est à l'origine.
Chirac
ou Macron.
Ah, oui. Il n'y a pas les deux.
Non, il n'y a pas les deux.
Dire la même chose.
Qui a dit en voyage officiel en Grande-Bretagne, la cuisine anglaise au début on croit que c'est de la merde et après on regrette que ça n'en soit pas?
Chirac.
Bon, oui, c'est allé vite, effectivement, mais je crois que Manon est allé encore un tout petit peu plus vite. Président Chirac, a répondu Cyril en régie, des trémolos dans la voix. Et c'était en réponse au Premier ministre Tony Blair qui lui vantait les délices du menu. On reprend Chirac ou Macron, qui a dit lors du G20 à Hambourg « La transition démographique est l'un des défis essentiels de l'Afrique. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. »
Chirac.
C'est Macron, ça.
Chirac, Cyril aurait aimé que ce soit le président Chirac, mais non, c'est bien c'est Macron. Méfiez-vous des contrefaçons. Et là, vous me dites, il n'y a pas eu de question sur les États-Unis dans ce quiz, ce qui est une faute contractuelle. Et direction donc les États-Unis dans les années 60, où, on le sait peu, une petite bourde est à l'origine de l'escalade qui conduira in fine à la guerre du Vietnam. Mais quelle fut cette bourde ? La boulette d'un soldat en charge des écoutes à bord d'un destroyer ? Une erreur de traduction dans un télégramme ? Ou l'interprétation de l'hymne américain à la flûte lors d'un déplacement de Nixon dans le Tonkin ?
B.
Vous êtes allé très vite sur la B.
Ouais.
Mais pourtant, c'était là.
Super.
Alors, je vous lis clairement, si quelqu'un avait joué l'hymne américain comme ça devant Nixon, c'est la bombe atomique que les États-Unis auraient lancée sur Saïgon. Mais non, c'est une plus petite boulette encore qui amorça l'engrenage fatal qui devait mener à la guerre du Vietnam. La boulette qu'on doit au soldat Cyril the Courier, muté au sonar après avoir un jour déclenché un tir de torpille en confondant une mouette et un MiG soviétique. Il va commettre une autre erreur qui va coûter cher, confondre l'hélice de son propre bateau avec des tirs ennemis. J'entendais pas hyper bien parce que c'était l'heure du goûter et j'écoutais le sonar en mâchant un donut, s'expliquera Cyril en conseil de discipline. Une erreur d'appréciation qui mènera donc ses supérieurs à décider d'une riposte de missile à une attaque imaginaire. Ça c'est donc vrai, la guerre du Vietnam pouvait démarrer. Défaite de la diplomatie et victoire de Manon Mariani.
Oui. Dis donc, c'est allé vite.
Qu'est-ce qui est allé vite? Il y avait beaucoup de choses à raconter.
Je crois que c'est pas Manon qui a gagné.
Comment ça? Si, on m'indique en régie que c'est Manon qui a gagné.
Ça arrive, Quentin.
Autant pour moi. Alors, victoire de Quentin. Désolé Manon pour cet ascenseur émotionnel.
Et merci à tous.
Oui, surtout vu l'enjeu.
Il y a toujours personne.
J'annoncerai demain la somme qui est en jeu pour celui qui remportera. Le Zoom Zoom Zen sur le Zoom Zoom Test sur l'année.
Vous parlez d'argent ?
Une somme délirante.
On a comptabilisé ?
Ah, j'ai tout comptabilisé, tout compté. Est là, Manon, tout est là. La directrice du domaine Europe, Espace, Transatlantique, Russie à l'IRSEM, Maud Kessar, est toujours avec nous pour ce sommet de l'OTAN qui se déroule à La Haye. On le disait en début d'émission, il y a un article très important dans le traité de l'OTAN, c'est l'article 5 qui dit que si un pays de l'OTAN est attaqué, les autres doivent lui porter assistance. Pourquoi alors, si on écoute cet article 5, l'OTAN ne s'est pas saisie des attaques iraniennes contre des bases américaines lundi soir pour entrer en guerre? C'est un peu à géométrie variable quand même cet article 5.
Non, parce que en fait, pour l'article 5, en fait, on peut intervenir, venir au secours de ses alliés à condition qu'on soit dans une zone qui est délimitée, qui est celle de l'espace atlantique, et ça ne s'applique pas. Donc pour l'Iran et le Moyen-Orient, ouais. Donc on n'a pas d'obligation automatique en tant que membre de l'OTAN de venir au secours d'un allié quand on est hors de cette zone, et donc les bases militaires américaines donc, ne rentrent pas dans cette clause-là.
Il a dit cependant Donald Trump lui-même que l'article 5 pouvait se définir de plusieurs façons.
Il nous préparait une nouvelle définition qui soit donc à géométrie variable et sûrement plus adaptée ou taillée sur mesure pour ses obligations immédiates, mais toutefois Donald Trump, selon les derniers développements, s'est gardé de nous dispenser cette nouvelle définition de l'article, qui serait quand même contraire finalement au principe de l'Alliance qui veulent qu'on ne voterait qu'une modification qu'avec un consensus de l'ensemble des membres et pas simplement selon la volonté d'un seul chef d'État.
Le patron de l'OTAN, Mark Rutte, il a félicité Donald Trump pour son intervention en Iran. Qu'est-ce que ça dit ça? Parce qu'il faut rappeler quand même que l'intervention en Iran, elle s'est faite sans passer même par le Congrès, enfin il y est allé comme ça, tout seul. Et l'OTAN applaudit des deux mains, c'est...
Alors deux choses. D'abord, le fait que Trump passe par-dessus le Congrès, on est quand même dans une ligne d'un hyper-président, puisque Trump a une conception de la présidence américaine qui est ce qu'on appelle une conception de la présidence impériale, où il va avoir des pouvoirs étendus du président. Le fait qu'un président américain mène une intervention ou autorise une intervention militaire sans passer par le Congrès, c'est pas la première fois. En raison des pouvoirs étendus du président qui date des années 70, 73, c'est le War Power Act. Et cependant, ça ne veut pas dire que le Congrès n'a pas un pouvoir de contrôle a posteriori. Et c'est tout ce qui va se jouer.
Il peut y avoir un petit impeachment après.
Alors, ça ne sera pas un impeachment, mais simplement, je ne sais pas si vous vous rappelez, même Obama avait été retoqué par le Congrès au moment de l'intervention en Libye. Alors, ce n'était pas tout à fait le même cas de figure. Mais ce que ça dit, et c'était le deuxième volet de votre question, de la position européenne, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les Européens sont particulièrement méprisés par Trump et son administration. Or, on a cruellement besoin de pouvoir travailler ensemble entre alliés, même si le président Trump n'est pas tendre avec ses partenaires et alliés, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'avait pas à leur préciser véritablement qu'il mènerait ses frappes, hein, de manière contractuelle. Toutefois, c'est vrai que ce serait fait, et ce qui est aussi intéressant, plus que Mark Rutte, c'est le premier appel que Trump a commenté et qu'il a passé là, juste avant de se rendre au sommet de l'OTAN. Il a appelé Vladimir Poutine, il a mentionné cet appel, il a eu Ursula von der Leyen juste après, et en revanche, il n'a pas mentionné le contenu de cet appel. Oui. Et ça en dit aussi un petit peu long sur sa conception, en fait, des acteurs qui comptent aujourd'hui sur la scène internationale.
Mais justement, voilà. Dominique de Villepin disait hier sur cette antenne qu'il n'y avait plus de règles aujourd'hui dans les relations internationales. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Il y a un contournement de la norme, et ce qui est particulièrement paradoxal, ce n'est pas que la Russie de Poutine ou la Chine de Xi Jinping puisse contourner les normes internationales. Ce qui est paradoxal, c'est qu'un pays qui a créé l'ordre international libéral tel que nous le connaissons et qui est un pouvoir normatif, les États-Unis, en arrivent eux-mêmes à torpiller ces normes-là qui ont fait leur puissance, puisque la puissance américaine, elle repose sur deux fondements très importants, les normes et les alliances. Donc deux piliers que Trump torpille.
L'OTAN est toujours attractive, hein. La Finlande en 2023, la Suède l'an dernier sont entrées dans l'OTAN, l'Ukraine aussi est candidate. Est-ce qu'elle peut aujourd'hui entrer dans l'organisation ?
Alors toujours pour la même raison qu'on évoquait, il faut qu'il y ait un consensus. Or vous savez très bien que Trump, que Pitexet et que Gigi Vance, comme Rubio, ont rappelé qu'il n'était pas question pour l'instant que l'Ukraine puisse rentrer dans l'OTAN, et également parce que le traité rappelle que si on n'a pas de stabilité politique ou qu'on est en conflit, on ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Donc tant qu'il y aura guerre en Ukraine, sur les territoires ukrainiens, il n'y aura pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir maintenant l'autre personne à suivre.
Je vous présente Salomé Zourabichvili. Elle a 73 ans, elle est franco-géorgienne et c'est l'ancienne présidente de la Géorgie. Diplomate, elle devient ambassadrice de France en Géorgie en 2003. Un an plus tard, elle change de casquette et devient ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, pays d'origine de ses parents. Elle affiche une ligne pro-européenne affirmée, s'oppose à Moscou et a un discours déjà très clair, ancré son pays dans l'Union européenne et dans l'OTAN. En 2018, elle est élue présidente du pays avec le soutien du Georgian Dream, un parti fondé par le milliardaire Bidzina Ivanishvili. Sauf que ce soutien électoral a longtemps été vu comme une compromission. Zourabichvili, pourtant pro-européenne, a accédé au pouvoir grâce à un parti de plus en plus conservateur, populiste et pro-russe. À l'époque, ses détracteurs l'accusent de servir de caution libérale à un régime qui verrouille ses institutions. Mais au fil de son mandat, le fossé se creuse. Petit à petit, elle se positionne en opposante à son propre parti, dénonçant ses dérives autoritaires, le recul des libertés et la suspension des négociations avec l'Union européenne, mais aussi le rejet assumé par le gouvernement géorgien de l'adhésion à l'OTAN, pourtant soutenu par une majorité de la population. En 2023, elle multiplie les visites en Europe, à Bruxelles et à Paris, où elle plaide ouvertement pour une relance des demandes, des discussions d'adhésion. Elle critique publiquement la neutralité affichée de son propre gouvernement aussi dans la guerre en Ukraine. Résultat, le parti au pouvoir a lancé une procédure de destitution contre la présidente. Il l'accuse d'avoir violé la Constitution en se rendant à l'étranger sans son autorisation. La procédure n'a rien donné. Mais le 29 décembre 2024, son mandat s'est achevé dans un climat de tension extrême. Le nouveau président élu, Mikhaïl Kavelashvili, un ex-footballeur proche des ultra-conservateurs pro-russes, est investi à huis clos. Zourabichvili refuse de reconnaître sa défaite. Elle quitte le palais, mais pas le combat. « Je reste la seule présidente légitime. Je me tiens à vos côtés avec votre confiance, votre drapeau et votre espoir. » Le gouvernement menace de la traduire en justice pour sédition. Elle risque même l'arrestation dans un pays où 20% du territoire reste occupé par l'armée russe depuis 2008. Pourtant, elle persiste, car pour une grande partie des Géorgiens qui ont manifesté pendant des semaines contre le nouveau président, elle reste le visage de l'Europe et de la démocratie.
France Inter. Zoom, zoom, zen.
Mathieu Noël.
Sa rubrique est unique. La preuve, ce message reçu hier, message du libraire de Cyril, grand fan de Zoom Zoom Zen. Bravo pour votre émission que je réécoute en podcast en entier, sauf la chronique de Pierre Courraz.
Évidemment,
ça peut être redondant pour les fans qui écoutent l'émission de A à Z, mais pour les autres, vous êtes une épatante roue de secours.
Chaque jour,
vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Mais Mathieu, après avoir été assistant et appui de Cyril, je suis maintenant la roue de secours, ça va m'aider pour renégocier mon contrat l'année prochaine. Merci beaucoup.
Pardon, je retire ce que j'ai dit, vous êtes absolument essentiel, un maillon essentiel de l'émission.
Merci Mathieu. Alors aujourd'hui, on a parlé de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance militaire et stratégique organisée pour lutter contre l'expansion soviétique et qui s'est maintenue même après la chute de l'URSS. Pourquoi ? Eh bien, c'est la grande question qui traverse les États membres eux-mêmes. Emmanuel Macron parlait il y a quelques années d'organisation en état de mort cérébrale. Donald Trump s'interroge publiquement aujourd'hui sur l'utilisation de l'article 5. C'est pourtant cet article qui est le socle de l'OTAN. Si un pays est attaqué, les autres lui doivent automatiquement assistance. Paradoxalement, quand Trump s'interroge sur le bien fondé de cet article, il oublie probablement que les États-Unis ont été le seul pays à avoir bénéficié de cette aide. Et ça, votre libraire Cyril ne peut pas le savoir parce qu'on ne l'a pas dit dans l'émission.
Du coup, vous résumez quelque chose qu'on n'a pas dit.
Oui, absolument. Je donne quelques petites infos supplémentaires. Notre invité Maud Kessar, spécialiste des relations transatlantiques, nous a expliqué que le sommet qui vient de s'ouvrir était très important pour les Européens avec le retour de la menace russe. Même si la demande de Donald Trump d'augmenter les dépenses militaires de chaque État membre à 5% de leur PIB révèle une animosité de l'administration américaine vis-à-vis des Européens. 5% du PIB, une décision irréalisable, sachant que Quentin m'a formellement interdit d'utiliser Dixit, sa meilleure vanne de l'année, à savoir « Avec l'OTAN va, tout s'en va ». Je conclurai par « Autant que faire se peut ».
C'est bien, Pierre, vous êtes le monsieur plus de cette émission.
Je passe
évidemment.
Le bonjour à la librairie du Canal.
Très bien, vous aurez encore 20% de réduction supplémentaire.
Non, jamais.
Elle nous l'a dit, elle n'ira pas, mais elle regardera de loin ce qui s'y passe à ce sommet. Tania, c'est à vous.
Merci. L'OTAN a donc été fondée en 1949 pour tenter d'assurer la paix et surtout garantir la défense collective. En 2025, on ne sait toujours pas si ça marche, il semblerait que pas trop. Mais on sait qu'il y a des sommets à des moments clés de l'évolution de l'Alliance et qu'à la fin, il y a une photo de classe avec tous les dirigeants placés en fonction de leur taille devant leur drapeau. Écoutez, incroyable, j'étais à Bruxelles ces deux derniers jours, j'écoute la radio et j'entends que la plupart des routes autour de La Haye, lieu du sommet, sont bloquées. Je sors mon Google Maps et je me dis quand même, pour ceux qui habitent à Hoek van Holland et qui travaillent à Leyde, ça va être compliqué. Elles sont chacune à côté de La Haye, très proches, un petit peu comme si tu souhaitais juste rentrer chez toi, mais l'OTAN a décidé que non. Donc pour ces personnes-là, ne rentrez pas chez vous le soir, prévoyez vos pique-niques, un réchaud, ainsi que des sous-vêtements techniques et informez vos proches. Si cela vous paraît insurmontable, changez de travail. Pour le sommet de cette année, un PDF a été préparé pour les médias, je l'ai survolé. Déception, moi je m'attendais à un petit PowerPoint tout simple, avec une carte du monde, avec des flèches rouges sur des pays et des zones grisées, comme les croquis du bac. Pas du tout, tu ouvres le fichier et tu lis 8h30 accréditation, 9h ouverture, 11h15 conférence de presse. Il y a aussi les horaires de repas, en revanche les menus ne sont pas inscrits. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas le nom du prestataire culinaire. Comme c'est un protocole militaire et diplomatique, il faut une discrétion logistique. Apparemment, choisir un traiteur est un contrat administratif sans intérêt stratégique ou médiatique. Bah, c'est vite dit. Parce que si le traiteur habite à Hoek van Holland, il a oublié son badge. Il y a un intérêt stratégique pour lui, le salaire passe le nez. Il repart avec un catering dans le coffre. Il aura beau dire à son passage au barrage militaire, mais puisque je vous dis que les mini-pains feuilletés sont pour l'OTAN, en hollandais bien sûr, pas de badge, pas de passage. Il faut un respect de la sécurité et de la confidentialité, car c'est la sécurité alimentaire qui est importante, pas la publicité pour le cuisinier. Alors, s'il a passé 8 heures dans son kangou pour faire 3 km, ça vaudrait le coup de lui rendre l'appareil avec un peu de pub. Les bons pains feuilletés. Alors, il semblerait que je pourrais investiguer en cherchant les procès-verbaux d'appel d'offres du gouvernement néerlandais, mais à quoi bon ? Je pourrais également interroger les services de communication de l'OTAN ou de l'AE, mais je pense que je vais être suspectée de quelque chose. J'aurais beau dire que c'est pour l'écriture d'une chronique pour France Inter, je ne suis pas certaine qu'ils vont me croire. Cette année, le gros sujet de ce sommet, c'était de demander aux pays membres d'allouer 5% de leur PIB à la défense. C'est parfait, c'est ce qu'on dépense en temps de guerre, pas de paix. Donc tout va bien. Et si on dépense 5% à la défense, faut couper ailleurs. Ne faudrait-il pas réduire les dépenses pour l'éducation ? À quoi bon apprendre les poésies de Jean de La Fontaine quand on peut apprendre à la maison à démonter un fusil d'assaut dès le plus jeune âge ?
Dernier point, le principe fondateur de l'OTAN est l'article 5 du traité. Une attaque armée contre un ou plusieurs membres est considérée comme une attaque contre tous. Trump a été questionné à ce sujet à bord d'Air Force One en direction du sommet de cette année. Voici ce qu'il a répondu. Il existe de nombreuses définitions de l'article 5, vous le savez, n'est-ce pas? Mais je m'engage à être leur ami. Vous savez, je suis devenu ami avec beaucoup de ses dirigeants et je m'engage à les aider. Et on veut tous un ami comme lui pour un déménagement. Quel ami! Quel ami! Si la guerre arrive, c'est pas l'article 5 qui nous sauvera, mais un SMS de Trump en pleine nuit à cause du décalage horaire avec juste écrit « I'm with you, bro ».
Merci Tania Dutel pour cette analyse étonnante de l'OTAN. Bel été du côté de CNews comme d'habitude ou changement?
Peut-être, je n'ai pas encore choisi.
Ah. Du surf, pas du sweat?
Peut-être, je ne sais pas encore.
Un stage de perfectionnement peut-être.
Peut-être.
Merci en tout cas Tania Dutel, très bel été à vous. Merci Maud Kessard de nous avoir permis de tout comprendre à l'OTAN. Les Avengers, comme disent vos stagiaires, les Avengers de... Les Avengers tout court. Quoi. Les Avengers sans les pouvoirs, sans les pouvoirs.
Oui, bah oui, parce que ça n'existait pas. C'est...
Comment ça,
les
ça n'existait pas?
Les pouvoirs naturels, ça n'existait pas.
Mais ça se débat. On fera une autre émission là-dessus.
Batman, ça peut exister.
Merci Maud d'avoir été avec nous.
Zoom Zoom Zen.